Avant d'écouter un nouvel épisode de Prolongation, je vous encourage à aller faire un tour sur la boutique en ligne de Calcio EPP. C'est sur www.calcioepp.shop. Et vous trouverez des posters en papier, des affiches murales en aluminium consacrées au football italien et européen. Milan, la Juve, l'Inter, Roma, Napoli, Real, Barça, Bayern, Manchester United, plusieurs clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, des sélections nationales et même beaucoup de vintage. C'est un moyen de soutenir le podcast Prolongation et c'est à retrouver sur calcioepp.shop.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcasts pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Laurent Bessière, responsable de la performance au Racing Club de Lens. Avec lui, nous avons évoqué son parcours, l'organisation du département performance à Lens, la recherche effrénée des gains marginaux et l'importance de la phase de récupération. Nous sommes également revenus sur l'aide de la data au quotidien pour calibrer le volume de travail, ainsi que sur les différents perturbateurs pouvant impacter la performance des joueurs. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Laurent Bessière. Bonjour Laurent Bessière et bienvenue dans le podcast Prolongation.
Bonjour Yvan.
Alors dans ce podcast, Laurent, on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué? Alors il y a plein de façons d'avoir un match qui nous marque en tête et qu'on ressort régulièrement, la fameuse Madeleine de Proust par laquelle on commence. Ça peut être un résultat pur, voilà, quelque chose d'inattendu, un super résultat contre une équipe plus forte ou un match compliqué, etc. Ça peut être le scénario d'un match, ça peut être une émotion particulière. Quel est le match que tu as envie de mettre en avant aujourd'hui?
Alors, c'est assez compliqué parce que tous les matchs sont particuliers, surtout depuis que j'ai accédé au monde professionnel, de mon premier match avec le Stade de Reims contre Marseille à ce dernier match ce week-end au Vélodrome contre Marseille également. Non, ça serait plutôt un souvenir perso. 2017, c'est très particulier puisqu'on était en stage avec le Stade de Reims, avec le staff de Michel Derzakarian, et on se retrouve à faire un match amical à Canet-en-Roussillon, là où on faisait le stage. Et puis, il se trouve aussi que c'est un endroit où j'ai la moitié de ma famille. Et en fait, sur la discussion de fin de semaine sur les temps de jeu des joueurs, en fait, tout simplement, il manque une petite demi-heure pour jouer. On n'arrivait pas à trouver de joueurs. Et puis, Michel se retourne vers moi et il me dit « Lolo, est-ce que ça te dit de faire un match avec le Stade de Reims ?» Voilà. Et donc, je me suis retrouvé à Canet-en-Roussillon à faire un match sous les couleurs du Stade de Reims. C'est pas très glorieux. Bon, on a gagné quand même, on a gagné 4-1. Mais c'est un super souvenir parce que je l'ai pris avec beaucoup de bonheur. J'ai essayé d'en profiter. Et puis, ça me permet aussi de laisser un petit message pour Michel qui le foot, il est fait ainsi. Ça s'est pas forcément super bien passé ces derniers jours avec Brest. Donc, une petite dédicace à Michel qui est une très, 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 très bonne personne.
Oui, et puis qui aura, je pense, aucun mal à rebondir compte tenu de son CV.
Je l'espère, et puis également de son travail.
Ouais, exactement. C'était contre quel adversaire, ce match amical?
Canet-en-Roussillon.
D'accord, ok, donc c'était contre les locaux. Ok, très bien.
Ouais, exactement, on avait fait un stage d'une semaine, on était arrivés, super temps, les installations étaient plutôt agréables et on avait fait un très bon stage. Bon, après, d'ailleurs, à la sortie, on se fait sortir en Coupe de France quand même.
D'accord, ok.
À la fin de ce match-là.
J'aime bien demander à mes invités comment le football est entré dans leur vie. Alors, généralement, quand c'est un ancien joueur, c'est assez facile parce qu'il me dit parfois, bah, j'étais en centre de formation et ça a été très rapide. Toi, c'est arrivé comment? Dans quel contexte? À quel moment tu t'es intéressé au foot? Est-ce que c'était d'abord une passion jouée? C'est-à-dire que tu jouais comme beaucoup d'enfants? Ou est-ce que c'était plus une passion, regarder à la télé, lire tout ce qu'il y a sur le football, s'intéresser à tous les joueurs, etc., etc.
Non, c'est plutôt une passion jouée. En vérité, j'ai commencé par le basket à l'âge de 5 ans. À l'âge de 5 ans, j'étais plutôt dans le profil de me démarquer parce que c'était un sport qui me plaisait. Effectivement, il y avait beaucoup de personnes qui faisaient du foot. Et puis, en fait, ma famille, mon père, mon oncle, mon grand-père, ils faisaient tous du foot. Donc, à l'âge de 7 ans, j'ai continué les deux en parallèle. Je me suis mis au foot et puis j'ai été piqué parce que après, j'y ai joué. J'y ai joué tout le temps et j'ai pas arrêté. Et je suis jamais sorti du football depuis.
C'était l'esprit rebelle de l'enfance de se démarquer.
Ouais, et puis c'était sympa le basket aussi.
Ouais, exactement. C'était ouais, c'est sympa. Vrai. C'est un sport.
J'avais un copain qui faisait du basket.
Et c'est un sport qui est très intéressant aussi, on en parlera par rapport à ta mission aujourd'hui au RC Lens, mais quand on parlera beaucoup de gains marginaux, de professionnalisation, de regarder autant ce qui se passe en dehors des terrains que sur les terrains pour avoir accès à la très haute performance. Le basket, et moi je suis assez régulièrement la NBA notamment, il y a beaucoup de choses qui se passent en NBA, de métiers qu'on a découverts à travers les sports américains d'abord, et qui ensuite ont été ramenés dans le sport le plus populaire, le football. Donc c'est vraiment un sujet très intéressant d'étude aussi. Notamment, j'imagine aussi tout ce qui concerne la data, la perf, etc. Il y a beaucoup de choses à retirer des sports US.
Je pense à peu près la même chose.
On sait que choisir le futur professionnel, c'est pas toujours évident. Il y a plein d'adolescents, parce que c'est à cet âge-là qu'on essaie de voir comment notre futur sera fait, de choisir la voie, c'est vraiment pas simple parce que parfois c'est à 17-18 ans et c'est une très grosse responsabilité de se dire bah, qu'est-ce que je vais faire de ma vie plus tard, à la sortie du bac, des études ou d'une filière professionnelle, etc. Toi, ça a été toujours très clair, le sport, ça a été je me lance dans cette branche-là, ensuite je fais la filière STAPS, etc. Ensuite, je vais sur la préparation physique plutôt que sur autre chose. Ça a tout de suite été très clair dans ta tête.
Le sport, oui, la préparation physique, non. Bon, le sport, dès le collège, de toute façon, je faisais du sport, puisque je faisais de la gym, je faisais du handball, je faisais du badminton, du foot, je faisais des crosses aussi. Et donc, bon, c'était quelque chose qui m'animait. Après, c'était plus une destinée familiale, je dirais. 90% des membres de ma famille sont dans l'enseignement. Ma grand-mère était agrégée de philosophie, mon père est agrégé d'histoire et géo. J'ai ma mère qui était proviseur d'un lycée. Donc, en fait, la transmission, c'est quelque chose qui m'animait fortement. Et donc, c'était facile parce que le sport, c'était quelque chose qui me parlait. Et à partir du collège, je me voyais être enseignant de PS. Donc, je ne suis pas enseignant de PS. Donc, à un moment donné, il s'est passé ce qui s'est passé. Je suis allé en STAPS. J'ai adoré mes études. Je suis passé par éducation et motricité, et puis j'ai fait une sorte de double cursus quand j'ai passé le concours. J'ai passé un master en ingénierie de la perf à Montpellier. Et là, à ce moment-là, presque tout s'est éclairé malgré moi, parce que bon, c'était simplement le fait d'aller faire un master en plus. Et ça m'a plu, je suis rentré là-dedans, et puis les opportunités, une après l'autre, m'ont fait devenir préparateur physique et puis après directeur de la performance.
Alors, tu as débuté à Rodez, si je ne me trompe pas, ensuite à Reims, on l'a évoqué tout à l'heure, et maintenant à Lens. Tu as travaillé avec plusieurs entraîneurs, tu as parlé de Michel Derzakarian à Reims, il y en a eu d'autres, il y en a eu à Lens, évidemment, à Rodez. Est-ce qu'aujourd'hui, alors, on va faire un peu les deux postes, peut-être que ça se rejoint, mais d'abord préparateur physique, maintenant responsable de la performance, est-ce que la façon de voir le football de l'entraîneur qui est en place a une très grande incidence sur ton fonctionnement au quotidien? On sait qu'il y a des entraîneurs qui ont une vision très différente, rien que de la préparation physique, par exemple, entre intégrer, associer, dissocier. Il y a un peu, alors c'est peut-être un peu cliché de dire il y a la vieille école
et l'école un peu plus moderne sur la préparation physique. Mais est-ce que toi, cette sensibilité de l'entraîneur a une incidence très forte sur comment tu vas agir et les process que tu vas mettre en place ?
Alors, c'est une question très, très compliquée, très complexe pour y répondre, parce qu'il y a forcément un panel de détails, de quotidien, de discussions. Alors déjà, il y a une chose qui est sûre, on est au service de l'entraîneur. Ça, c'est le coach, il faut le mettre dans les meilleures conditions pour qu'il puisse réussir. Réussir, c'est-à-dire dans le monde pro, très rapidement, on parle de résultats, mais surtout de construire le futur. Il faut pérenniser, ça dépend quel niveau on est. Le but, c'est de jouer au plus haut niveau possible. Donc, à ce moment-là, il faut créer les conditions, performance, et mettre le coach dans les meilleures conditions possibles pour exprimer son idée du football. Aujourd'hui, son idée du football, on peut l'exprimer plus par rapport au projet de jeu ou par rapport à son plan de jeu qu'il veut mettre en place sur les différents week-ends. Après, l'objectif, c'est d'avoir à peu près le panel de solutions pour s'adapter à la méthode du coach. Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut être un béni oui. Enfin, c'est comme ça que je vois un peu la situation. Je pense que le coach, s'il est entouré de personnes qui lui disent oui à tout ce qu'il pense, ça va plus sur le long terme lui desservir que lui servir. Parce qu'à un moment donné, les saisons elles sont longues, elles sont fatigantes. On n'a pas forcément toujours la lucidité maximale. Donc autour, il faut des gens qui puissent soulager ou amener des idées ou rafraîchir l'atmosphère. Et là, à ce moment-là, je pense qu'il faut créer le contexte pour mettre le coach dans les meilleures conditions et après l'amener progressivement vers des améliorations qu'il valide, bien entendu. Parce qu'à ce moment-là, si ce n'est pas validé, ce n'est pas accepté et là, on va vers de graves problèmes sur du long terme si ça ne marche pas. Donc, le but, c'est de créer un contexte adapté pour que le coach puisse s'exprimer au mieux.
Alors, tu parlais de créer un contexte, etc. Un entraîneur, on parle souvent de sa philosophie de jeu. Est-ce que toi, tu as pas une philosophie de jeu, mais un modèle idéal ? Ça ne veut pas dire que c'est forcément ça que tu mets en place aujourd'hui, mais est-ce que toi, quand tu réfléchis comme ça, en te disant, bah tiens, pour qu'une équipe soit performante, moi je pense qu'il faut ça, 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 est-ce que tu as un absolu modèle en toi, ou est-ce que tu es obligé de te dire, ce modèle-là, bah, c'est très bien, mais à la limite, c'est ce que tu disais, il faut aussi s'adapter à ce que veut l'entraîneur et créer un contexte d'émulation où on apporte des petites touches, mais sans vouloir forcément imposer son modèle idéal qu'on a en tête, qu'on a pu construire à travers des expériences, à travers des études, à travers des discussions, à travers des réflexions, etc.
Oui, en fait, il faut absolument s'adapter, il faut être intelligent dans le process. C'est-à-dire que tout le monde a un modèle, voire à 100%, sauf que la locomotive, c'est le coach. Donc, à ce moment-là, l'objectif, c'est de pouvoir travailler autour de la locomotive et après, de la faire avancer du mieux possible, le plus vite possible. Je n'ai pas forcément un modèle super, super carré, super détaillé. J'ai des indicateurs. Je sais à peu près, sur certaines organisations de semaine, comment je pense imaginer le travail dans le football. Déjà, moi, ce qui m'anime, pour avoir travaillé, pour être intervenu dans différents sports co, le football, il est incomparable. Il n'y a pas un sport co qui est proche du football. Tout simplement par son essence même, elle est très simple, c'est que le ballon, il est au sol et pas tenu, et que la prise d'information, elle est au niveau des yeux. On prend le basket, on prend le handball, on prend le rugby, le ballon il est au niveau des mains, on n'a pas forcément besoin de regarder le ballon pour savoir où il est. Le volet, le ballon il est au niveau des yeux. Donc déjà, la prise d'information, elle est facilitée. Donc déjà, le football, il y a cette grosse différence que de temps en temps, on n'a pas forcément besoin d'être forcément un avion de chasse ou un monstre athlétique ou de courir le 100 mètres en 11 secondes ou alors d'avoir une frappe de mule. De temps en temps, si on voit bien, si on a une très bonne perception de l'environnement, si les décisions sont prises avant, on va plus vite que tout le monde. Parce que une passe faite une demi-seconde plus tôt, c'est énormément de mètres de gagné. 5 mètres à gagner sur un sprint ou un déplacement, des fois, c'est une vie de travail. Donc, en fait, rien que sur cette conception-là, déjà, ça change un peu la vision. Donc, après, ça ne veut pas dire je ne pense pas que le travail physique proprement dit est inutile. Mais là, ça m'amène à me dire que dans les semaines, laisser la place au projet de jeu du coach le plus souvent possible, ou en tout cas le plus de temps possible, pour que les joueurs puissent se l'approprier. Et ça, déjà, c'est mon modèle de base au niveau athlétique. Après, aujourd'hui, avec le matériel qu'on a à disposition, notamment les GPS, donc pour les données, je dirais, plutôt objectives, ça nous permet d'avoir des charges d'entraînement plutôt adaptées pour réguler le niveau de forme des joueurs.
Avant de rentrer dans ton quotidien, peut-être ce qu'on peut commencer à faire, c'est une définition de ton rôle aujourd'hui. Responsable de la performance, on va y venir tout à l'heure, c'est assez récent dans le football. Il y a des pays qui étaient un petit peu plus en avance, anglo-saxons, etc. En France, c'est un peu plus récent. Sur quel domaine intervient un responsable de performance aujourd'hui ?
Pour moi, tout est performance et elle n'appartient pas forcément au responsable perf. C'est un mot où il y a performance, mais le coach est animé par ça, les intendants sont animés par ça, les dirigeants sont animés par ça. Aujourd'hui, responsable, directeur perf, manager de la perf, enfin, tous ces termes-là, il y a performance dedans, mais ça, ils n'ont pas l'exclusivité de la performance. Déjà. Donc après, ça va dépendre en fait de la situation de la personne dans le club et les prérogatives qu'on veut bien lui laisser. Par exemple, moi, j'ai une conception bien particulière de la performance. C'est que j'y vois l'optimisation, la prépa physique, les datas, mais j'y vois également le médical dedans. Je pense que c'est ma vision de la chose, bien entendu. Et je vois le médical à 200% dans la performance parce qu'ils sont nécessaires à la performance et ils doivent être alignés avec ce critère-là de prise de risque, de performance, de discussion. Ça ne veut pas dire qu'il faut les joueurs à l'abattoir ou prendre des risques inconsidérés ou inconsidérables. Mais malgré tout, on est dans un métier où il faut performer le plus longtemps possible et le plus haut possible. Donc à ce moment-là, les visions doivent être alignées. Et je pense que dans la définition de la performance, par exemple, le secteur médical a sa part de travail et de succès, en espérant de succès, quoi.
Alors justement, pour préparer cet épisode, j'ai regardé un séminaire de la FFF auquel tu avais participé et dans lequel tu détaillais un petit peu l'organisation du département performance au RC Lens. C'est intéressant parce que justement, il y a le secteur médical dedans, pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Est-ce que tu peux nous présenter un peu l'organisation et les personnes qui la composent pour que les gens comprennent bien aujourd'hui qu'est-ce que tu chapeautes et qu'est-ce qui est aujourd'hui alloué en tant que performance au sein du RC Lens ?
On avait imaginé donc avec les dirigeants trois pôles avec un quatrième pôle qui devait se rajouter sur moyen terme. Donc les trois premiers pôles, c'était le secteur médical où on a un médecin, quatre kinés, un ostéo, deux podologues. Et puis tous les intervenants extérieurs, puisqu'on a dentiste, on a passé des partenariats avec pharmaciens, biologistes, ophtalmos, pour pouvoir prendre en charge très rapidement les joueurs, radiologues, cardiologues, en fait, tout ce qu'il doit y avoir dans les clubs de foot. Après, le deuxième pôle, c'est le prépa physique et data. Dans ce pôle-là, on a trois préparateurs physiques, un analyste vidéo et un data analyste. Et le troisième pôle, c'est le pôle optimisation, où dedans, on a une diététicienne, une psychologue, un professeur de yoga et une enseignante de langue. Faire avancer les joueurs qui parlent moyen bien le français. Et le quatrième pôle qu'on devait rajouter sur le, si tout allait bien fonctionner, c'était le pôle développement, avec l'idée d'essayer de mettre en place la méthode de travail des pros sur la formation.
D'accord, ok. Donc l'optimisation, en fait, le pôle optimisation, c'est un peu tout ce qui concerne le hors-terrain, mais qui a une influence sur le terrain. On détache un petit peu les choses, mais psychologue, nutritionniste, c'est pas lié à un aspect technico-physique, entre guillemets, qu'on voit tout de suite sur le terrain, mais ça a quand même une influence sur la performance.
Bien sûr. C'est des personnes qui apportent aux joueurs pour répondre à leurs besoins.
Et ça, c'est... Ça, c'est quoi ? C'est dans l'esprit, c'est consultatif, c'est obligatoire. Tout ce qui est, t'as parlé de, genre, je sais pas, c'est un ou une professeur de yoga. Est-ce que c'est à la discrétion de la volonté des joueurs, ou est-ce que c'est fortement conseillé, est-ce que c'est obligatoire?
On a mis une logique ou un process, on appelle ça comme on veut, assez logique sur la saison, en collaboration bien sûr avec le coach, avec l'acceptation du coach bien entendu. Sur toute la prépa, quand elle vient, mais c'est obligatoire. Elle vient sur des demi-journées, on fait trois groupes, dizaines de joueurs, et elle vient leur faire trois fois une heure de yoga. Et à partir de la saison de compétition, en fait, c'est toutes les semaines, mais avec une obligation pour certains types de joueurs, certains, notamment les jeunes, ils ont yoga toutes les semaines. Et une fois par mois, en fait, on se retrouve sur demi-journée obligatoire pour tout le monde.
Alors ça, on ne le trouve pas dans tous les clubs. Est-ce que c'est une sensibilisation personnelle qui vient de toi, ou est-ce que c'est le fruit de, je sais pas, de lecture que tu as pu avoir, de retour d'expérience? Parce que dans ce podcast-là, j'avais eu Olivier Dalloglio, et lui est très branché là-dessus aussi, sur yoga, sophrologie, etc. Des choses qu'il a testées d'abord sur lui-même, et ensuite, quand il discutait avec ses joueurs qui avaient différentes problématiques, il pouvait les conseiller ou leur proposer une solution de ce type-là pour essayer de soit de résoudre des problèmes, soit d'aller encore plus dans le bien-être, dans le développement, etc.
C'est un peu tout. Je ne vais pas m'approprier ça. Moi, en étant à Rennes sur mes dernières saisons, je m'étais mis au yoga personnellement. Et le coach est sensibilisé à ça, sur le développement perso. Et donc, quand j'arrive à Lens, on a une professeure de yoga qui intervenait à la formation. Et donc, on en parle et il souhaitait qu'on mette ça en place. Donc, on a réfléchi à l'organisation et on l'a intégré pour l'optimisation.
Ok. Est-ce que finalement, ce poste-là de responsable de la performance, avec d'autres possibilités, comme tu l'as évoqué dans la sémantique et l'utilisation des mots qu'on peut choisir évidemment de manière un peu différente, est-ce que c'est pas le poste le plus transversal dans un club? Parce que tu as évidemment l'intérêt pour le médical, l'intérêt pour la prépa physique, tu as l'intérêt pour le développement personnel, tu mixes beaucoup quand même de compétences et de pôles différents. Alors évidemment qu'un entraîneur est au-dessus de tout le reste du staff technique et doit aussi avoir cette sensibilité-là, mais l'intérêt d'un staff technique, c'est aussi d'avoir des experts à côté, et l'entraîneur peut s'appuyer sur les recommandations, l'expertise, les conseils, etc. Mais est-ce que le responsable de la performance, c'est pas un des postes, si ce n'est le poste, le plus transversal dans un staff au sens très large dans un club?
Ça dépend toujours des prérogatives. Après, ça serait quand même prétentieux d'affirmer une telle chose. Moi, je pense qu'il y a des postes qui sont transversaux également. Je dirais directeur sportif. Je dirais aujourd'hui, Franck, coach, prend la place de manager général. C'est quelque chose d'ultra transversal sur l'ensemble du club, avec, je pense, des réunions, des décisions à prendre sur pas mal de secteurs. Après, quand c'est transversal, il n'y a pas de surhomme. Là où il faut être efficace, c'est dans le management de maison. Et avoir les bonnes personnes au bon endroit pour être sûr que le travail soit correct et que la direction et le sens soient suivis pour le bien du collectif et pour le bien de la performance. Aujourd'hui, j'ai ce poste-là au club, mais en aucun cas je suis spécialiste de yoga, en aucun cas je suis meilleur que la diète ou j'ai plus de compétences qu'elle au niveau de la diététique, en aucun cas j'ai plus de compétences que le prépa qui passe 10 heures par jour en salle, alors que j'en ai fait également avant, mais en aucun cas j'ai plus de compétences que celui qui s'occupe de la réathlétisation sur le terrain ou la personne qui est sur le groupe maintenant à travailler sur les échauffements et sur le travail individuel. J'ai eu la chance de passer dans ces différents postes, mais à terme, quand on commence à manager, il faut bien comprendre que le but, c'est de mettre les experts dans de bonnes conditions pour qu'ils puissent s'exprimer, que les gens vivent bien ensemble, tout ça pour le service du coach, mais surtout pour mettre le groupe de joueurs et individuellement le plus haut possible. Donc bon, il faut avoir beaucoup d'humilité par rapport à ça.
Non, mais même si tu n'es pas expert de tout, tu es obligé, quelque part, vu que tu les gères, tu les manages, tu es obligé d'avoir des compétences quand même sur tout.
Oui, mais bon, aujourd'hui, je sais où j'étais, entre guillemets, le meilleur, mais bon, j'ai peut-être quelques compétences partout, mais par rapport au niveau il faut absolument les bonnes personnes pour les bonnes compétences, parce que c'est pas moi qui vais boucher les trous. C'est les personnes que, entre guillemets, qu'on va choisir.
Aujourd'hui, quand on parle de performance, il y a souvent un terme qui revient assez rapidement dans la recherche de la performance, c'est les gains marginaux. C'est à quels endroits on peut réussir à être plus performant pour que la performance globale soit encore meilleure, soit plus prégnante. On a parlé de la diététicienne, on a parlé de la prof de yoga, on a parlé d'une personne, d'un prof de français, je crois que tu m'as dit, qui était là pour aider ceux qui arrivent notamment de l'étranger et qui ne parlent pas français. Il y a quand même des... À la fois dans les ressources humaines allouées dans les clubs, à la fois dans les process mis en place, il y a quand même des choses qui tendent vers ces fameux gains marginaux qu'on ne voyait pas forcément avant. Moi, il y a un truc... Alors, certains disent que c'est des effets de mode, etc. Mais il y a des petites séquences parfois qui sont assez révélatrices, je trouve. Le fameux, je sais pas si on doit dire échauffement ou réchauffement tout de suite après la mi-temps. C'est quelque chose qu'on ne voyait pas il y a... ne serait-ce que 5 ans. Il y a 5 ans, on ne voyait pas les prépas physiques mettre les différents plots, les, je ne sais plus comment ça s'appelle, les espèces de trucs par terre. Voilà, exactement, les coupelles. Les... Enfin, on ne voyait pas cette séance qui dure une minute, ou une minute trente, ou deux minutes, je ne sais pas exactement. Ça, on ne le voyait pas. Mais quand j'en avais parlé, par exemple, à Benoît de Laval, qui est prépa physique, dans ce podcast, il nous avait dit c'est pour refaire monter en température le corps, pour qu'il soit prêt tout de suite à être performant. Si on va sur la nutrition, c'est la même chose. Il y a 15 ans, 20 ans, il y a des journalistes qui vous racontent, ou il y a 30 ans, encore pire, qu'à la fin du match, on buvait une bière et voilà, et qu'on voyait des joueurs tenir une clope à la mi-temps, et voilà. Enfin, tout ça, c'est des choses qui n'existaient pas. Et ces fameux gains marginaux, on a l'impression qu'on est entré dans une ère où on est à la recherche du pourcentage, du petit pourcent qui va nous permettre de gratter... j'allais dire encore un pourcentage de performance supérieur. Comment tu le vois ça, et jusqu'où on peut aller là-dedans? Est-ce qu'il n'y a pas une limite où quelque part on se dit si on met tellement de choses en place au préalable pour être performant, est-ce qu'on ne va pas être juste dans l'usure déjà avant même de faire des matchs?
Ta question, on peut répondre en deux parties. Déjà, il faut savoir que la recherche, la science, elle avance vite, pas forcément plus vite que le terrain. Mais quoi qu'il en soit, il y a énormément de gens qui travaillent pour essayer de détecter les endroits où on peut s'améliorer. Et ça, on a besoin dans notre métier. C'est même indispensable pour continuer à progresser, même si bon, les expériences sur le terrain font progresser. Et ça, c'est important, c'est pas négligeable. La science, de temps en temps, peut ouvrir des portes. Mais c'est pas parce que la science... elle trouve 15 solutions sur des gains marginaux qu'il faut venir les placarder sur les joueurs et leur charger la mule, parce qu'en fait, selon les profils de joueurs, ça c'est ma deuxième partie de réponse, selon les profils de joueurs, en fait, ben, il y a tout simplement des joueurs qui ne sont pas en attente ou à la recherche de ces choses-là. Quid pour les joueurs qui ont faim, qui veulent absolument le gain marginal le plus important, qui vont chercher des solutions à droite, à gauche, qui veulent tout perfectionner, et là, ces joueurs-là, il faut être capable de répondre à leurs besoins. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Enfin, c'est ce que j'essayais de mettre en avant tout à l'heure. À un moment donné, il faut répondre aux besoins de certains joueurs. Il y a des joueurs, ils n'ont pas de besoin. Ils n'ont pas de besoin, en tout cas instantané. Et nous, notre rôle, c'est de les amener vers cette recherche. Ça veut dire qu'il faut les rendre responsables, il faut leur expliquer qu'on a toutes ces possibilités-là pour... ben, qu'ils arrivent à améliorer leur performance, à améliorer leur jeu, pour qu'ils aillent le plus loin dans leur carrière et qu'ils deviennent le joueur brillant que tout le monde espère être. Il faut les amener sur ça. Et puis, progressivement, les rendre autonomes. Parce qu'à un moment donné, il faut être très, très, très humble dans cette situation-là. Il y a personne qui crée les joueurs. On est tout simplement là pour les accompagner. Si les joueurs, ils n'ont pas forcément envie de faire les choses, ils ne les font pas. Ou s'ils les font, ils ne les feront pas à 200%, ce qui permet justement de s'améliorer. Nous, on est là pour accompagner les joueurs, on est là pour éventuellement leur montrer des chemins, leur proposer des choses. Sans leur bonne volonté, on ne les amène nulle part. Donc, sur ces gains marginaux, selon les profils de joueurs, il y en a qui sont à la recherche de beaucoup de choses, d'autres d'un peu moins. Ceux qui ont besoin de beaucoup de choses, ben, il faut pouvoir les nourrir pour les amener à progresser. Et ceux qui ont besoin de rien, ben, il faut pouvoir, en gros, à un moment donné, les appâter pour les amener vers ces choses-là qui vont, en gros, amener certaines solutions dans leur carrière qui, on espère, va les faire progresser ou les amener le plus loin.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Possible.
Tout à l'heure, tu parlais du médical qui est très important. On a parlé, tu viens d'évoquer la science qui avance. Le jeu, on observe une évolution quand même ces dernières saisons sur le jeu qui est de plus en plus rapide. Il suffit même pas d'être un expert ou quoi que ce soit. Il suffit d'allumer sa télé et de mettre un match des années 2000 et un match des années 2020. On est vraiment sur deux types de football très très différents. On a des joueurs qui sont de plus en plus prêts, et ça c'est évidemment le travail du staff, prêts physiquement, des joueurs qui vont très vite, qui sont très puissants, qui sont très forts, très résistants, qui sont capables de multiplier les efforts. On voit par exemple sur des données purement statistiques, sur les distances parcourues, les sprints à haute intensité, si on reprend là encore des matchs des années 2000 et ce qui se fait aujourd'hui, c'est totalement différent. Est-ce que tu as l'impression qu'on peut aller encore plus loin? Moi, c'est une vraie question et c'est quelque chose à laquelle j'essaye de réfléchir depuis pas mal de temps en me disant, en voyant cette évolution-là, en voyant des équipes qui vraiment masterisent ces courses à haute intensité, etc., avec en plus la répétition des efforts, parce que c'est pas simplement le faire une fois par semaine, c'est le faire deux fois par semaine. Et puis avant, il y en avait des plages de repos réelles. Maintenant, il n'y a quasiment plus aucune plage de repos. Parce qu'il y a des compétitions, on va peut-être nous mettre maintenant des compétitions estivales tous les ans, etc. Est-ce que, même avec l'aide de la science qui avance, est-ce que c'est possible d'aller plus loin sur cette donnée-là? Et à l'inverse, est-ce que les gains marginaux, ou en parallèle plutôt qu'à l'inverse, ils ne sont pas allés chercher sur le secteur médical? En gros, bah, les petits bobos, comment les soigner? Alors, je ne sais pas si on doit dire mieux, ou faire en sorte qu'ils soient, les joueurs soient de retour plus rapidement sur le terrain sans pour autant mettre leur santé en danger. Parce que ça, quand on parle avec des médecins, évidemment, parfois il y a des oppositions entre le staff technique et le médecin, parce que le médecin, c'est un médecin avant d'être un médecin du sport, entre guillemets, et le médecin, il veut le bien-être de son patient. Et il veut surtout que les blessures n'aient pas de conséquences sur sa vie après le football. Je lisais encore, il n'y a pas longtemps, une interview de Batistuta, qui à la fin de sa saison, de sa carrière, pardon, ne pouvait plus marcher. Est-ce qu'aujourd'hui, on aurait des médecins qui prendraient ces risques-là? C'est-à-dire que d'avoir des joueurs qui, après leur carrière, sont obligés de se faire opérer un nombre de fois incalculable, à la cheville, au genou, etc., etc., parce qu'ils sont détruits par le football. Là, j'ai un peu extrapolé, mais en gros, est-ce que c'est possible, sur les données physiques pures, pour un athlète en bonne santé, d'aller plus loin? Et en parallèle, est-ce que c'est pas plutôt du côté du médical que les prochains gains marginaux vont se faire?
Elle est assez large, ta question. Déjà, il y a une chose qu'il faut être bien clair avec ça, c'est que le sport de haut niveau n'est pas bon pour la santé. j'enfonce une porte ouverte. C'est, je veux dire, à un moment donné, quand tous les jours on fait un sport à haut niveau, à haute intensité, que ce soit physiquement que psychologiquement, à un moment donné, il va y avoir des séquelles. Donc, c'est pour ça que ça demande des accompagnements et c'est pour ça que ça demande un encadrement au quotidien. Tout à l'heure, tu parlais de l'opposition médicale-technique. C'est pour ça que ma conception, ma vision, c'est que le médical doit être dans la performance. Ça veut dire, et dans cette influence au niveau, je dirais, retardateur ou, je ne sais pas comment expliquer, ou plus de prudence, mais malgré tout, dans le sport de niveau. Parce qu'on est dans ce système-là pour ça. C'est comme si un joueur, on expliquait... Ben, tu vas jouer un match sur deux parce que c'est pas bon pour la santé. Ça devient très compliqué. C'est des gens qui sont payés. Souvent, tu les payes par rapport à leur niveau aussi. Donc, tu ne peux pas, à un moment donné, avoir le discours avec le joueur. Ben non, à 40 ans, on prend des risques sur ton genou. Donc, tu vas jouer un match sur deux. Ben, les dirigeants, ils vont dire, ah, bon, mais peut-être le payer un match sur deux. Alors, non, mais bon, ça, c'est très, très, c'est factuel. C'est très simple. Mais maintenant, je pense que sur la vitesse du jeu, l'objectif ultime, c'est l'intensité maximale tous les 3 jours, pendant toute une saison. Effectivement, ils n'ont pas forcément pur. Ça, c'est l'objectif ultime. Donc, je pense qu'on n'y est pas malgré tout, on n'y est pas encore. Est-ce qu'on y arrivera un jour? Je ne sais pas. Mais le but est d'avoir une force collective. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'individu est noyé dans le collectif et c'est le collectif qui est fort. Et là, à ce moment-là, enchaîner des performances à très haute intensité collectivement, ça c'est des objectifs que tous les staffs ont envie d'atteindre, et ce qui est très compliqué. Ça c'est la donnée football. Sur la donnée médicale, optimisation, bien-être, je pense qu'il y a énormément de gains encore à acquérir, je ne sais pas si ça peut se dire, ou en tout cas à développer, à aller chercher, parce que, comme je parlais tout à l'heure, la science travaille, et progressivement, les choses arrivent. Il y a quelques années, on ne parlait pas de psychologue dans le foot ou la diététique, comme tu disais, avec la bière ou la cigarette. Ce n'était pas forcément un sujet. Là, aujourd'hui, il y en a, ils dosent ce qu'ils mangent, ils le pèsent, ils savent exactement ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'ils doivent ingérer pour être performants, à quel moment de la journée, avant, après l'entraînement, les boissons de préparation, les boissons d'effort, les boissons de récupération. On travaille sur le sommeil, c'est-à-dire à quelle heure il faut s'endormir, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour que le sommeil soit bon. Donc, quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a énormément de gains là. Mais j'ose espérer et je pense que tout le reste n'est pas encore figé. Et ce côté intensité, force collective, ça peut encore être... Je pense que ça peut encore être entre-développé. Dans plusieurs années, il y a peut-être quelqu'un qui aura fait une étude ou qui aura travaillé ou qui aura trouvé une méthode qui permettra aux 11 joueurs sur le terrain d'être des avions de chasse pendant 95 minutes et deux fois par semaine. C'est possible.
Justement, pour ça déjà, il y a la récupération qui est très importante. Alors, il y a plein de manières, enfin, il y a plein d'éléments qui entrent en compte dans la récupération. Est-ce que tu peux nous donner quelques points qui favorisent une bonne récupération? Tu as parlé là du sommeil, tu as parlé des boissons. Je pense à quelque chose aussi, tu sais, les passionnés de foot aujourd'hui sont beaucoup sur les réseaux sociaux, ils suivent les joueurs, etc. Ils voient souvent des joueurs dans les bains froids, dans les fameuses les bottes de bressothérapie, la cryothérapie, etc. Ça fait aussi partie, j'imagine, des différentes solution pour mieux récupérer, aide en tout cas pour mieux récupérer.
Ouais, voilà, c'est une aide. De toute façon, là, c'est pas la magie. Là, il n'y a pas la magie. Les deux secteurs sur lesquels il faut être très vigilant, c'est la nutrition, donc complément alimentaire, mais on a aussi les repas, et puis ce qu'on donne avant, pendant, après les entraînements, les matchs, et le sommeil. Ça, c'est des choses qu'il faut réussir à contrôler, non. Il faut essayer d'être impactant avec les joueurs en les rendant responsables et autonomes. On est dans des générations de joueurs qui ont une vingtaine d'années, une trentaine d'années, souvent des joueurs qui aiment bien les jeux vidéo. Et par exemple, ça, sur la concentration, la capacité de visualisation, ça crée de la fatigue. Ça peut réduire leur nuit aussi, parce que y en a certains qui sont passionnés de ça. Et là, à ce moment-là, ils n'en ont pas forcément conscience, mais ça peut baisser leur niveau de performance. Donc, la nutrition et le sommeil, c'est deux choses très, très particulières. Et on se doit de sensibiliser les joueurs et de les accompagner sur ça, sachant qu'on ne sera jamais dans leur maison, à côté du frigo. Donc, le but, c'est de réussir à les rendre autonomes sur ça. Surtout, de leur donner du sens à ça. Parce que ils peuvent dire oui, 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 et puis dès qu'ils rentrent à la maison, la porte elle est fermée, et puis ils se jettent sur le frigo, et puis après on les pèse. Et... Enfin, voilà, ce côté-là, sommeil, nutrition, hydratation, c'est des choses qui sont indispensables pour pouvoir être performant et si possible sur du long terme. Après, tous les process de récupération, tu parlais, la cryothérapie corps entier, les bains écossais avec les bains froids, les bottes, on a des outils de froid super, super intéressants. Ou les massages de récupération, ça existe, c'est mis en place. Souvent, c'est les joueurs qui font. On est là pour leur proposer et avec l'expérience, il vaut mieux qu'ils soient OK pour ça. Scientifiquement, souvent, c'est pour l'enchaînement des méthodes ou l'addition des méthodes qui permet une récupération un peu plus intéressante. Mais c'est pareil, c'est à disposition. Il n'y a pas forcément non plus de grands miracles. C'est-à-dire qu'on est là pour les encadrer et on optimise le petit détail qu'on essaie d'optimiser. Je reviens dessus, la nutrition, l'hydratation et le sommeil à côté, ça n'a rien à voir sur les gains de récupération. C'est beaucoup plus important.
Ok. On l'a évoqué tout à l'heure, une chose qui est arrivée aussi plus récemment dans le football, pour revenir au discours qu'on faisait avec les sports US en tout début d'épisode, la data, qui est utile dans tellement de secteurs, évidemment. Aujourd'hui, quand on pense à la data dans le grand public, je pense que les gens pensent essentiellement à la data technique, c'est-à-dire ce qu'on voit sur le terrain, tir cadré, pourcentage de possession, ce genre de choses-là. Il y a la data côté accès, côté recrutement, qui à la base est sur de la data technique aussi, pas que, hein, parce qu'il y a la data physique aussi, pour voir un peu les sprints à haute intensité, quelles sont leurs résistances à l'effort, etc., évidemment. Et puis, il y a cette data physique au quotidien. Toi, en tant que responsable de la performance, tu parlais tout à l'heure des GPS qui vous permettent d'accumuler beaucoup de données sur ce que les joueurs ont fait en match, aussi à l'entraînement. D'ailleurs, c'est marrant, quand on parlait des... Moi, j'ai utilisé le terme de tendance, ou je ne sais plus ce que j'ai dit exactement sur le réchauffement tout de suite après la mi-temps. Autre chose qu'on voyait très peu avant, c'est les GPS pendant les matchs. On voyait souvent les GPS à l'entraînement, les GPS en pré-saison ensuite, parce que c'est peut-être là où le travail physique est peut-être plus scruté. À toi tu vas me dire si c'est le cas ou pas. Mais maintenant, systématiquement, dans les grands clubs, les joueurs ont un GPS à chaque match, avec la petite balise en bas de la nuque, sur l'espèce de brassière GPS, etc. Comment tu intègres la data au quotidien? Comment la traiter? Parce que c'est pas tout de la récupérer. Ensuite, il faut avoir un traitement pour que ça se matérialise et ça serve à quelque chose. Et comment tu remontes les infos à l'entraîneur? Parce que, évidemment, que c'est un discours de staff de manière générale. Comment tu remontes les infos à l'entraîneur par la suite?
Très longue question aussi, je vais essayer de ne pas m'embrouiller et d'être bien clair.
Mais on peut la faire en plusieurs fois, moi j'ai des questions toujours très vastes. Hein, donc.
Non mais c'est très intéressant et puis bon, c'est motivant de répondre à ces questions parce que ça touche au métier, là tu touches au métier de préparateur physique et c'est quelque chose qui m'anime. La gestion des charges par exemple, comment mettre en place un système pour que les joueurs soient bien, mais que le maximum de joueurs soient bien et que le collectif soit performant. Il y a plusieurs trucs. La data, c'est super important. Déjà, dans l'absolu, c'est important parce que l'œil, en fait, c'est quelque chose qui est indispensable, mais l'œil, il est humain. Et à un moment donné, tu prends, tu ne vois pas, tu oublies. Et la data, elle te permet de récupérer des choses du terrain et de les conserver, et tu peux y revenir après, des fois plusieurs années après, pour regarder ce que tu faisais, quels étaient les résultats, si tu as pris des notes ou des trucs comme ça, tu te dis, ah ouais, mais j'avais fait tel jeu ou tel travail athlétique, il me semblait que j'avais constaté. Enfin, ça, c'est de la pure expérience, mais c'est surtout très, très riche, parce que...
Je me permets juste de te couper un instant, Laurent. Quand tu parlais de l'œil qui peut parfois voir ou ne pas voir, justement, il y a aussi les fameux biais cognitifs. C'est-à-dire que, je prends un exemple, si l'entraîneur... il y a un joueur qui fait une mauvaise séance, par exemple, ça arrive, l'entraîneur va le voir, et peut-être que la séance d'après, il va avoir en tête cette mauvaise séance, et dès qu'il va voir, je sais pas, ce fameux joueur courir un petit peu moins, etc., il va peut-être se dire, ah bah voilà, il recommence. Et peut-être qu'en fait, en récupérant les données GPS, par exemple, il va se dire, c'est peut-être juste à l'instant où je l'ai regardé, comme par hasard, c'était moins bien, mais en fait, toute la séance, il l'a bien faite.
Très, très, très bonne analyse, Johan. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis. C'est comme la discussion, par exemple, de temps en temps, tu te dis, putain, aujourd'hui, sur le match, on n'était pas bien physiquement. On n'était pas bien physiquement. Et c'est totalement subjectif. À un moment donné, les solutions... Alors, des fois, la facilité, c'est ça. Des fois, c'est la vérité aussi. C'est possible. Les gens lourdes, mais... Tu commences à travailler sur les datas. À l'époque, je me souviens, on pouvait avoir « Ouais, mais je suis sûr, on n'a pas couru, on n'a pas fait les efforts, tel joueur, il n'a pas fait les efforts. » Et tu sors les datas et tu te rends compte que le joueur, en fait, il n'a jamais autant couru, il n'a jamais eu autant d'intensité. Et tu te dis « Mais ce n'est pas possible. » Et donc, aujourd'hui, avec ces données-là, ça donne aussi du relief à l'œil des experts, du coach, des adjoints, en se disant « Ah, mais c'est la sensation que j'ai, mais peut-être qu'en prenant un peu plus de recul, peut-être que la solution, elle va pouvoir être à un autre endroit. » Et là, à ce moment-là, on prend du recul au lieu de faire un focus, en fait, et les solutions commence à arriver de façon beaucoup plus pertinente et beaucoup plus juste. Bon, ça, c'est aussi, ça, c'est pareil, c'est de la littérature, hein. Mais c'est pour donner un exemple sur qu'est-ce que peuvent nous apporter les data. De temps en temps, les data, moi, je me souviens, quand j'avais fait ma formation à Clairefontaine, j'ai eu la personne qui nous a encadré. Bon, je peux donner son nom. C'est Philippe Lambert. Première chose qu'il faisait, c'est donner les GPS à nous, les stagiaires, et il disait, ben, faites une séance pour développer telle filière. Et donc, quand vous développez une filière bien particulière, ben, on mettait les joueurs souvent dans un exercice analytique avec ou sans ballon sur les temps, et on disait, ben, on avait telle filière. On avait le GPS et le cardio. Le soir, quand on sortait les données, complètement à côté de nos pompes. Et moi, je me retrouvais dans une situation où ça faisait 10 ans que je faisais la prépa. J'étais persuadé de développer une certaine filière. Et là, Philippe, et il y avait Alexandre avec lui, Philippe était en train de m'exploser certaines convictions ou certitudes que j'avais. C'était plutôt des certitudes qui étaient complètement à côté de ses pompes. Et donc, à ce moment-là, j'avoue que ce stage-là, cet ensemble, parce que c'était le diplôme de la Fédé de préparation physique, m'a ouvert les yeux sur, en fait, des fois, les certitudes qu'on a qui sont complètement à côté de ses pompes. Et justement, sur le fait que, ben, il faut essayer de remettre en question tout le temps ce qu'on pense, parce que l'absolu n'existe pas. Et donc, en fait, c'est, pour revenir à ça, ces data, elles permettent d'avoir une petite explication là, à ce moment-là. Ça veut dire qu'un joueur, on a l'impression qu'il ne court pas, et en fait, il court beaucoup. À un moment donné, il faut poser le problème de l'efficience, du rendement. Ça veut dire que s'il crée toutes ces courses-là et qu'on a l'impression qu'il ne court pas, ben, ça veut dire qu'en gros, il court dans le vide ou il ne court pas sur le plan de jeu ou le projet de jeu ou le technico-tactique, on appelle ça comme on veut.
Il court donc, mal, quoi, en gros.
Voilà, il court exactement, il court mal.
Je te coupe un deuxième instant, je suis désolé de te recouper là-dessus. Ça me fait penser à quelque chose, je ne sais pas si tu avais suivi un petit peu l'Atalanta, le club de Bergame. Le système de jeu de Gasperini, l'entraîneur, donnait l'impression que les joueurs étaient au-dessus physiquement et qu'ils couraient sans arrêt, qu'ils couraient, ils couraient, ils couraient, ils couraient, ils couraient. Et tout le monde disait, mais c'est pas possible de courir autant, aussi longtemps, ils sont tout le temps en train de courir, c'est pas normal. Il y avait même des suspicions de, est-ce qu'ils ont pas des trucs à côté, etc. Bref, etc.
Ça, c'est la facilité quand on n'a pas, pas le secret.
Exactement. Et en fait, moi, un truc qui était très bien, c'est le site de la Ligue italienne donne des datas, et alors c'est qu'une data, mais au moins ça, gratuitement pour les gens qui suivent, il y avait les distances parcourues, à la fois individuelles et collectives.
Pas énorme.
Non, et ben l'Atalanta était 9e de Serie A.
Et moi ça ne me surprend pas. Il y avait une autre équipe, là tu parles de l'Atalanta, mais il y a une autre équipe pendant 5-6 ans qui a impressionné sur son agressivité, la capacité à courir, c'est l'Atlético Madrid. À un moment donné, on se disait, putain, mais c'est un truc de fou cette équipe. Elle enchaîne les matchs jusqu'à la 95e, elle est agressive, elle court dans tous les sens. Les joueurs, on a l'impression qu'ils savent exactement ce qu'il faut faire. Et ça, c'est des. L'Atalanta a été un modèle très intéressant. L'Atlético Madrid, d'il y a quelques années, bon, toujours aujourd'hui, mais il y a un moment donné, quand il se retrouve clairement en finale de Ligue des Champions, enfin régulièrement deux fois, c'est la question qu'on peut se poser. Et bien entendu, quand on n'a pas le système de travail, d'entraînement et tout, on pense au dopage. En gros, c'est la facilité. Mais à la sortie, je pense que c'est quand même une méthode ou un process de travail qui est bien maîtrisé, bien calculé et que les joueurs maîtrisent bien. Je ne pense pas qu'il y ait du dopage là-dedans.
Non, du tout. Je t'ai coupé, tu parlais de la data, justement, de l'apport de la data dans ton travail. Comment, une fois, par exemple, à l'entraînement,
est-ce que les collecter.
Ouais, voilà, exactement.
Et en fait, bon, j'allais venir. Prendre de la data, il y en a des tonnes et des tonnes. Le but, c'est de réussir à les sélectionner, à identifier les indicateurs que tu peux utiliser et après, en gros, qui te servent. Ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'ils te permettent de prendre des décisions pour ton système ou ton process d'entraînement. Comment moi, dans mon travail, j'ai fait, je travaille avec les GPS maintenant depuis pas mal d'années. Je crois que c'est 2014, je pense. Première fois que je sors le fichier Excel, il y a un nombre d'indicateurs monstrueux. Et je me dis, bon, mais on va commencer par un, quoi. C'est par un, et puis j'ai essayé de programmer l'indicateur, voir comment je pouvais gérer mes semaines. Je me suis penché sur la littérature pour avoir certains indicateurs, parce que bien entendu, il y a des scientifiques qui travaillent sur ça. Et puis, progressivement, quand j'ai eu l'impression, parce que c'est toujours une impression, de maîtriser un indicateur, eh bien, je suis passé sur un deuxième, un troisième, un quatrième. Et après, quand tout ça est fait, et quand le système commence à être mis en place, je pense que ce qui est intéressant, c'est de le coupler au technico-tactique. Ça veut dire les indicateurs physiques, GPS, le couple technico-tactique. Et l'outil qui aujourd'hui est quand même très important, très intéressant, avec un potentiel de fou, c'est la vidéo. C'est la vidéo, parce qu'il y a des joueurs qui sont plus auditifs, d'autres qui sont plus visuels. Il y en a certains, tu leur montres une image, ils comprennent tout. Tu leur expliques pendant un quart d'heure, ils ne comprennent rien. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut essayer de prendre. Bien sûr, il faut les moyens, mais qu'il faut prendre en compte. Et puis, derrière, si on arrive à coupler des données athlétiques avec un certain moment ou certaines courses demandées par le projet de jeu ou par le plan de jeu, ça permet de progresser, donner des billes aux joueurs, de travailler avec le staff technique pour améliorer le schéma collectif.
Et ensuite, comment tu remontes toutes ces données à l'entraîneur ? Est-ce que tu es très, très sélectif sur les données ? Est-ce que les données que tu remontes dépendent de la performance, par exemple, du week-end précédent ? Sur des choses que tu as pu remarquer, ou est-ce que c'est globalement à peu près le même schéma que tu essayes de lui remonter pour qu'il ait des points de comparaison, par exemple d'une semaine à l'autre de...
Exactement, ça c'est le plus important. Ça veut dire que le coach, je ne suis pas là pour lui manger la tête avec 50 données parce qu'il a déjà pas mal de choses à penser avec la gestion de son vestiaire, la communication extérieure, la communication avec les dirigeants, le choix de son équipe. Enfin, donc moi ce que j'essaye, c'est que j'ai travaillé avec 7 ou 8 coachs dans le monde professionnel. Moi, ce que j'essaye au début, c'est de bien cadrer les indicateurs que je peux lui proposer et qui peuvent lui parler. Parce que je n'avais pas lui avancé un indicateur que je ne maîtrise pas. Alors, il m'est arrivé, coach, il me sortait un indicateur avec qui il avait travaillé. Et là, j'y travaille dessus et j'essaie de lui amener. Je donne un exemple. Par exemple, Michel Dazakarian, quand on a travaillé à Reims, au début, il me demande tout. Il demande tout. Donc, je lui ai tout sorti. Voilà, je lui ai donné, et après, au bout d'un moment, j'ai dit, une relation de confiance qui se crée avec le coach, à un moment donné, je lui explique, Michel, on ne va pas rester avec tous ces indicateurs-là, parce que toi, il te faut des indicateurs qui te parlent et qui te permettent d'aller vite à l'essentiel. Et donc, on sélectionne. Moi, je travaille avec le maximum d'indicateurs que je maîtrise pour proposer les charges d'entraînement, les profils de séance, etc., etc., hein, sur le physique, technico-tactique, je dirais. Et lui, il lui faut des indicateurs pour pouvoir comparer toutes les séances, comparer les semaines ou comparer les matchs entre eux, très simplement. Et donc ça dépend des sensibilités personnelles des différents coachs. Le but, comme je te disais au tout début, c'est de pouvoir répondre de la façon la plus adaptée à la demande du coach.
Est-ce que tu peux nous donner quelques exemples d'indicateurs qui, pour toi, sont assez importants ?
Oui, en fait je peux te... La distance totale, les accélérations, les différents niveaux d'accélération ou d'accélération. Tu as les distances faites au-dessus d'une certaine vitesse ou de certaines vitesses. Ça dépend les paliers, les seuils qu'on met. On peut travailler aussi avec des indicateurs un peu particuliers, avec les équivalences distance ou les player load. Je te donne un exemple, par exemple, très simple. Tu peux travailler sur les courses en profondeur dans ton projet de jeu et la définition de la course en profondeur. Et la définition de la course en profondeur, ça peut être le fait d'attaquer la dernière ligne, mais est-ce que tu mets un critère physique sur la qualité de la course en profondeur ? Est-ce que tu travailles sur la vitesse ? Est-ce que tu travailles sur un seuil d'accélération ou un seuil de changement de direction, par exemple ? Et là, à ce moment-là, ça permet de coupler le technico-tactique et le physique. Et par exemple, sur un match avec une analyse bien précise, tu peux regarder si éventuellement tu as fait un match un peu moins intéressant parce que tu n'as pas fait le nombre de courses profondeur que ce que tu avais l'habitude de faire. Ça veut dire faire reculer l'équipe adverse, les tamponner, les faire travailler. Et si tu es resté un peu, par exemple, dans le cœur du jeu où tu t'es fait attraper, cette solution-là, tu ne l'as pas utilisée alors qu'elle aurait pu te permettre de faire un meilleur match ou de sortir avec un meilleur résultat, par exemple. C'est coupler en fait les données technico-tactiques avec les données athlétiques qui te permettent d'avoir un certain relief sur ton analyse du jeu.
Là, on vient de parler de comment tu faisais remonter les informations à l'entraîneur. Est-ce qu'il y a aussi la remontée d'informations directes aux joueurs dans ce que tu fais ? Tout à l'heure, tu disais qu'il faut réussir à ce qu'ils ressentent le besoin de s'améliorer sur plein de sujets, etc. Est-ce que toi, tu as des échanges directs avec les joueurs après des séances d'entraînement où tu commences à compiler des données, où tu t'aperçois d'un truc qui va ou qui va pas, ou d'un truc qui va très bien d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas forcément que des choses qui vont pas. Dans le management, dire que c'est bien, c'est bien aussi pour la confiance, pour l'esprit, etc. Comment tu fonctionnes avec eux ?
Je me souviens au début, je leur affichais tous les entraînements avec toutes les datas individuellement. Et en fait, moi, je constatais que c'était pas forcément une très bonne solution parce que bon, déjà ils se comparaient très très vite entre eux. C'était pas forcément, ça faisait pas forcément bon ménage tout le temps selon la situation individuelle de chaque joueur. Et puis des fois, ça leur mettait un focus sur les données athlétiques, alors que c'est de loin pas forcément le problème le plus important pour eux. Donc ça les détournait, certains ça les arrangeait, et ça les détournait à mon avis de l'essence même de leur travail au niveau technico-tactique, compréhension du projet de jeu et puis écoute du plan de jeu du week-end, quoi. Donc j'ai arrêté ça parce que j'avais plus de problèmes que de gains. Après le but c'est d'essayer d'individualiser par rapport à leurs besoins. Les joueurs ils sont en demande de plein de choses, il y en a certains qui ont besoin des données athlétiques. Quand je leur parle de données athlétiques, je pondère énormément parce que des fois, elles sont très très bonnes et ils sont contents de les donner. Mais tu participes à la réunion staff et tu sais qu'au niveau technico-tactique et au niveau, enfin, ce que le staff attendait au niveau football de ce joueur-là, c'était pas forcément ça. Alors, bien entendu, avec l'expérience aujourd'hui, je vais pas le balancer comme ça aux joueurs. Mais malgré tout, quand il vient et qu'il se satisfait ça, je lui dis attends. Fais attention, ça c'est de très très loin pas le plus important. Donc concentre-toi de est-ce que ce que tu as mis en place ce week-end, c'est ce que le staff voulait. La réponse facile, ouais mais j'avais les cannes, j'étais en forme et tout. Oui, je suis d'accord, mais est-ce que tu l'as bien utilisé cette forme-là, quoi. Ça c'est important parce que t'es pas un joueur, t'es un joueur parmi d'autres, t'es dans un collectif, donc il faut que tu puisses performer dans le collectif. Ça c'est important. Et bon, mais ça crée, faut être franc. Faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'à un moment donné, on a quand même aussi un droit de réserve parce qu'on n'est pas le coach, on n'est pas l'adjoint. Et puis, il faut les faire avancer. Moi, je pense que c'est une histoire de confiance aussi avec le joueur. Ça veut dire que le joueur, il s'ouvre à nous plus par le côté savoir et savoir-faire. C'est-à-dire que s'il sent que ce que tu lui dis va lui apporter, il va venir vers toi. Et puis après, c'est le côté un peu particulier, c'est que derrière, c'est le savoir-être qui t'amène à travailler sur du long terme avec lui. Parce qu'à un moment donné, quand tu vois tous les joueurs, tous les jours, plus que certaines personnes de ta famille, y a ce côté qu'il faut entretenir. Donc bon, c'est un complexe assez particulier. Il faut de l'exigence au quotidien, il faut leur parler de tout ça, il faut être rigoureux, mais il faut absolument que ce soit saupoudré aussi un peu de plaisir, parce que sinon c'est difficile de travailler sur du long terme.
On en revient à l'importance des relations humaines dans un club. Parfois, sont peut-être pas assez mises en avant. Parfois, ce que le grand public n'a peut-être pas conscience de l'importance de ça, en pensant que c'est forcément vertical. Et que c'est tu fais ça, mais en fait c'est ça c'était peut-être, je veux dire, sans vouloir que ça paraisse pour un manque de respect, parce que c'est pas du tout le cas, bien au contraire, moi qui suis originaire de la région, mais la période Giroud est dépassée, donc aujourd'hui le management c'est plus la même chose qu'à cette fameuse époque là où ils pouvaient se permettre des choses qui aujourd'hui seraient pas du tout acceptées, parce que dans les fameux facteurs de performance, on parle de physique, on parle de tactique, on parle de technique, on parle de nutrition, de récupération, de sommeil, d'alimentation. Mais il y a une chose aussi, c'est la tête. Et la tête, c'est réussir à faire en sorte que chacun trouve sa place, réussir à faire en sorte qu'ils soient tous le plus heureux possible pour que les séances d'entraînement soient positives. Si les séances d'entraînement sont positives, il y a plus de chances que la performance du week-end soit positive. Enfin, en tout cas, il y a une incidence quand même sur ça. Et c'est vrai que dans les champs du possible, je pense qu'il y a encore aussi du travail là-dessus. C'est comment faire en sorte que, tout simplement, la rigueur ne soit pas synonyme, enfin la rigueur qu'il leur est réclamée d'ailleurs, et c'est normal, c'est tout à fait logique, bah, ne soit pas synonyme de tension en fait. C'est peut-être ça le plus difficile.
C'est les différents modes de management, c'est-à-dire le management autoritaire, le management laxiste et le management intermédiaire. Je pense qu'à un moment donné, comme tu disais, il faut être exigeant au quotidien, mais il faut absolument que ça soit dans un cadre de plaisir, parce que quand il y a le plaisir, en fait, il revient et ça te plaît au quotidien. Et ça, c'est la chose. Et ça, je pense que ça appartient à tout le monde. Tout le monde a une responsabilité sur ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut tous les jours avoir la banane, il faut toujours être en extase, un truc comme ça. Mais malgré tout, il faut avoir conscience de la chance, déjà, qu'on a de bosser dans ce milieu-là, de faire cette activité-là. Parce que, bon, voilà, hein, si, c'est un métier passion. Donc, il faut. Et puis, le plaisir, ça se crée. Et comme tu disais, par le management, par les prises de décision, par quelle décision on prend, ben est-ce qu'on la prend de façon individuelle ou collaborative, ça c'est des formes de management qui te permettent d'aller plus loin avec un groupe. Et ça c'est pas forcément inné. Donc ça je pense que ça se travaille et je pense que il faut développer ces côtés-là quoi.
Est-ce qu'avec le rythme effréné dans un club de Ligue 1, tu as encore le temps de faire de la veille sur ce qui se fait ailleurs? On a parlé tout à l'heure de l'influence des sports US, qui sont généralement, sans vouloir faire l'aude aux sports US, mais quand même un petit peu en avance sur tout le monde, sur pas mal de sujets, sur les innovations technologiques. Souvent, on pose la question aux entraîneurs, alors le drone, est-ce que vous filmez vos séances et vous les passez sur grand écran après, etc. Parce que le drone, c'est le symbole ultime de la technologie. Est-ce que tu arrives encore à prendre le temps de... tu parlais tout à l'heure de littérature scientifique, de vraiment suivre ça de près, de t'intéresser aussi à tout ce qui est nouveau logiciel aussi. On n'y pense pas souvent, mais dans les progrès de l'analyse vidéo, il y a aussi les progrès liés à l'outil logiciel qui est beaucoup plus performant aujourd'hui que ce qui était le cas il y a encore quelques années, à la technologie, ce qui peut t'aider sur l'entraînement, sur la performance, etc.
Déjà, je suis quelqu'un de nature très curieuse. Très curieuse, donc j'adore échanger. J'ai l'impression de me développer, de m'enrichir avec ça. Et je pense que pour durer, c'est indispensable parce que tout va très, très vite. On est dans des sphères assez, assez fermées. Et il faut essayer d'être... Alors qu'on travaille beaucoup, il faut essayer de pouvoir trouver l'ouverture pour pouvoir développer. J'ai travaillé dans plusieurs sports. Et...
Tu as fait dans le rugby, c'est ça aussi hein?
Ouais, j'ai travaillé 2 ans dans le rugby, j'ai énormément appris. À la fois au niveau préparation physique, mais à la fois au niveau humain aussi. J'ai travaillé avec des danseurs et des danseuses qui faisaient plus de 20 heures de danse par semaine et de danse classique. Hein. Et franchement, c'est des sportifs hors normes, physiquement, psychologiquement. Il y a des sports qui sont incomparables par rapport au football. J'ai travaillé avec un golfeur. Psychologiquement, c'est des sports qui poussent les raisonnements très très loin dans un domaine bien particulier. Alors bien sûr, le rugby, on pense à la force, mais bon, je travaille aussi avec des tennismans au niveau appui, déplacement, préparation perceptive, ça va super vite. Donc, je suis intéressé par tout ça. Et puis là, depuis quelques temps de mon métier, j'ai travaillé sur le développement personnel. Donc, j'essaie de progresser sur le lâcher prise, sur certaines choses. Quand tu parlais tout à l'heure du fait de contrôler, à un moment donné, tu as envie de tout contrôler, mais il faut te rendre à l'évidence que si tu travailles avec des experts, il faut les laisser travailler, leur faire confiance et travailler sous forme de reporting et puis après de management. Donc, il y a ces choses-là au niveau de la recherche. Et puis, j'essaie de me former... Quand le club où je travaille le permet. Et là, j'ai démarré une formation à l'ESSEC de management. C'est une demande que j'avais faite il y a un an. Et le club l'a accepté. Donc, j'ai démarré une formation sur ce thème-là. Quoi, pour progresser dans mon corps de métier. Quoi.
Ouais, parce que c'est ultra important. Parce que tu es en lien avec tellement de personnes. On revient à la transversalité du poste. C'est que... Je ne sais pas si on doit le dire de façon pyramidale, vraiment, mais tu as au-dessus et aussi en dessous, c'est-à-dire que toi, tu gères des personnes, et en quelque sorte, t'as des, je sais pas si on doit dire des comptes à rendre, mais t'as des relations avec ton entraîneur, avec le directeur sportif, peut-être même le directeur général. Enfin voilà, il y a beaucoup de.
Et puis les joueurs.
Et puis les joueurs, voilà, ça c'est encore en dessous, j'allais dire encore en dessous par rapport au reste du staff, mais il y a quand même beaucoup de personnes avec des backgrounds vraiment très différents, avec des sensibilités très différentes, avec des attentes très différentes. Et c'est vrai que c'est intéressant de se former là-dessus, parce que c'est, on reparlait tout à l'heure des relations humaines et de l'importance des relations humaines. Évidemment que c'est capital aujourd'hui dans des métiers de ce type. Sur la littérature scientifique, est-ce que tu regardes aussi un peu ce qui se fait sur la récup, la réathlétisation, ou ça tu laisses vraiment de côté pour les experts qui sont en charge de ça et qui ensuite peuvent te dire voilà, les nouvelles approches, les études qui ont été faites, des choses à mettre en place, etc.
Alors, pour ça, je vais t'expliquer le process que j'ai mis en place, toujours pour que ça soit efficace et assez simple pour tout le monde. On a une personne dans le département PERF qui est data analyst. Et donc, tous les mois, on donne en collaboration un thème bien particulier et il a 3 semaines pour faire la revue littérature et fait un moment de rassemblement tous ensemble où on échange, où il a fait un PowerPoint et où on travaille sur le thème pour essayer derrière. Alors, des fois, il n'y a rien, des fois, il n'y a rien. Il n'y a pas de prise de décision pour adapter sur le terrain, mais de temps en temps, il y a des applications pratiques qu'on met en place rapidement sur le terrain pour voir si ça améliore le process global de travail.
Est-ce que tu peux nous donner un exemple de thème comme ça qu'on ait une idée de...
Nous, le dernier thème, c'était sur le travail en côte. Hein. Le thème d'avant, c'était sur la récupération. Alors, c'est les deux thèmes.
Est-ce qu'à ces réunions, ce travail-là est présenté juste entre vous au niveau du staff? Ou est-ce que ça peut être aussi, je sais pas, avec des joueurs ou... Enfin, peut-être pas la même réunion, mais en tout cas, ensuite, répercuter sur les joueurs.
Non, sur des thèmes comme ça, on se rassemble, un moment assez calme, assez cool, un créneau qu'on bloque 3 semaines avant. C'est vraiment pour échanger, c'est de tous éteindre notre portable. On bloque une heure tous ensemble. Non, mais c'est des fonctionnements qu'il faut bien programmer au départ. C'est-à-dire quand on met ça en place, on explique que ce moment-là, pendant une heure, on arrête le temps. Il y a une personne qui va commencer à travailler. On peut y travailler dessus. C'est-à-dire que de temps en temps, il y en a qui peuvent anticiper et puis à un moment donné, alimenter la discussion. Mais notre data analyse, data scientist, on n'est pas un grand club, mais on a une personne qui travaille très, très bien là-dessus. Il a cette mission-là. Et donc, une fois par mois, il rentre sur le thème. Il nous explique la revue de littérature qu'il a faite et également les études qui lui ont paru intéressantes, pertinentes. Et on détaille les études en regardant tellement les applications pratiques. Avec l'expérience de tous, et bien de souvent, on se dit, tiens, nous, on fait ça, est-ce qu'on ne pourrait pas basculer plutôt vers ça? Et puis, on essaie d'améliorer le process de travail.
On arrive au bout de l'entretien, Laurent. Et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines? Alors, soit tu as un nom en particulier à me soumettre, soit ça peut être aussi, si tu n'as pas un nom précis, on va dire un métier lié au football, une fonction dans un club que tu aimerais qu'on développe dans les semaines à venir.
Après, il y a énormément de personnes qui pourraient apporter beaucoup de choses dans tes podcasts. Non, je pense à Franck Thivillier, qui est un cadre de la Fédération française de football, qui fait d'ailleurs les formations cadres, et notamment le BEPF à la Fédé, qui participe à la formation de nos coachs, et je trouve qu'il a une vision très très intéressante sur justement soit les gains marginaux, soit tout ce qui permet d'aller plus loin dans la performance, puisqu'il développe un centre de la performance à la FFF, et je pense qu'il a une vision de la performance qui est intéressante.
Et ça me fera une nouvelle invitation à lancer. Merci beaucoup Laurent Bessière pour ta disponibilité, pour ton temps et pour la qualité de cet entretien. Et évidemment, on te souhaite à toi ainsi qu'à l'ensemble du RC Lens, une très bonne saison, puisqu'on est encore dans le début de saison, on va pas dire fin de saison, une très bonne saison tout court. Merci beaucoup Laurent.
Bonne continuation Johan, à bientôt.
Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot.
Do you ever feel like your brain is on overdrive? And your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.